Théologie naturelle, Saint-Jeudard, 23 avril 1985.
Nous allons continuer cet effort de regard dans un jugement de sagesse. C'est l'effort ultime au plan philosophique, hein, essayer de comprendre l'homme dans la lumière du Créateur. Et comprendre sa manière d'exister, ses limites et en même temps ce pourquoi il est fait, dans la lumière de l'être premier, du Créateur, puisque nous sommes portés par son amour, puisque nous sommes dans la lumière de sa sagesse. Nous devons essayer de saisir, autant que nous le pouvons, dans la lumière même de la manière d'exister de l'être premier, ce que nous sommes. Dans la lumière de l'éternité, comprenons ce qu'est le temps. Alors vous voyez bien, il y a un double regard, hein. Il faut toujours essayer de bien saisir cela. Il y a un double regard sur le temps. Il y a le regard premier que nous découvrons en philosophie de la nature. En philosophie de la nature, nous découvrons le temps comme ce qui mesure, ce qui mue. Nous sommes dans le temps par notre corps. Nous sommes dans le temps parce que nous sommes partie de l'univers. Et le temps est ce qui mesure ce devenir physique par où nous sommes partie de l'univers. Le vivant est non seulement dans le temps, mais il a une durée. Il faut toujours bien distinguer le point de vue de la durée du vivant et le point de vue du temps. La grande intuition de Bergson, hein, c'est ce point de vue de la durée du vivant. C'est pas Bergson qui l'a inventé. Saint Thomas l'avait dit avant lui, et Aristote aussi. Mais il l'a remis très fort en lumière comme sa grande intuition, l'intuition qui commande toute sa vision, la durée du vivant. Il n'y a que l'homme qui peut saisir sa durée. Mais c'est le vivant comme tel, à cause de son immanence, qui est un être qui dure. Alors nous pouvons assez facilement saisir, si vous voulez, la différence entre le temps et la durée. Prenez l'exemple tout simplement des cours, hein. Les cours ont tous le même temps. Ils n'ont pas tous la même durée psychologique. Les nuits peuvent avoir toujours le même temps. Elles n'ont pas toutes la même durée psychologique. Quand vous avez de la peine à vous endormir et que vous ne dormez pas, la durée est très longue. Les nuits de ceux qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent, ça dure très longtemps. Et pourtant, c'est le même temps. Nous saisissons bien. Et voyez, c'est très curieux, c'est la souffrance qui met en nous un hiatus entre la durée et le temps. la joie fait que la durée va très vite. On a toujours l'impression que on a beaucoup moins de durée dans la joie que dans la souffrance. Les joies brûlent le temps, alors que la souffrance intensifie la longueur de la durée. Il y a une expérience humaine qui est d'ordre psychologique, c'est évident, mais qui est très profonde en nous. Et qui doit, je reste, comprendre un tout petit peu ce que nous sommes les uns par rapport aux autres. Nous n'avons pas les mêmes durées. Vous voyez, le noviciat dure le même temps pour tous. Et il n'est pas de la même durée pour tous. Je crois qu'il va plus vite pour les jeunes et qu'il est plus long pour ceux qui sont plus âgés. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Parce que peut-être que ceux qui sont plus âgés sentent davantage ce que ça peut représenter. Chez les jeunes aussi, il peut y avoir des souffrances qui font que ça dure très longtemps. Ah, c'est 2 années de noviciat. Comme c'est long. Et d'autres, au contraire, disent ces 2 années de noviciat, c'est le ciel. C'est merveilleux. Ça fait avec une rapidité extraordinaire. Oui, il y a un phénomène de la durée et du temps qui fait que on est appelé à quelque chose qui dépasse les deux. L'éternité, c'est l'au-delà de la durée et du temps. L'éternité, c'est ce qui caractérise l'être premier en qui l'être et la vie ne font qu'un. C'est une durée qui n'est pas mesuré par autre chose que son propre être. L'éternité, c'est sans mesure. C'est le propre de l'éternité, c'est sans mesure. Le temps implique une mesure. On est parti d'un tout. Et le temps a une objectivité, la partie dans le tout. La durée, c'est le vivant qui possède en lui comme un certain rythme et qui, d'une certaine manière, est sa propre mesure. Mais c'est quand même successif. Et il y a toujours une référence au temps. Je ne peux pas m'isoler du temps. C'est pour ça que je dis qu'il y a des durées qui sont longues et des durées qui sont courtes. Parce qu'il y a une référence au temps. Il faudrait savoir ce que représente la durée de quelqu'un qui est dans le coma. Il est coupé de l'extérieur. On a essayé de faire ces expériences au Canada. C'est un peu dangereux du reste. De voir quelqu'un qui est complètement isolé du temps et qu'est-ce que ça représente au point de vue de la durée. On a fait cette expérience qu'au bout d'un certain temps, on ne résiste plus. Au bout d'un certain temps, objectif, on ne peut plus. On ne peut pas durer très longtemps sans la référence au temps. Psychologiquement parlant. Et on voit que la femme dure plus longtemps que l'homme. C'est des expériences qui ont été faites. Je me souviens à Fribourg, quelqu'un qui était très au courant de toutes ces expériences avait fait une conférence là-dessus. C'était très curieux. C'est toujours la référence à une mesure extérieure. Vous voyez, la durée, il y a une immanence dans la durée. C'est le rythme du vivant. Mais la durée et le rythme du vivant pour nous est toujours en référence au temps. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des durées qui durent plus ou moins longtemps. Le propre de l'éternité, c'est justement de faire que l'être divin qui est identique à sa vie et à sa vie spirituelle, à sa contemplation. Il n'y a aucune extension, il n'y a pas de rythme dans la vie de Dieu. C'est ce que saint Thomas essaie d'exprimer quand il dit que c'est un instant subsistant. C'est imaginatif de dire ça, hein, mais c'est peut-être la seule manière pour nous de nous représenter l'éternité. Parce que vous ne pouvez pas vous représenter l'éternité. La seule manière, c'est par l'instant présent. C'est l'instant présent subsistant, c'est-à-dire comme un instant qui durerait tout le temps. Comme un instant qui n'aurait pas de passé et de futur. Nous, notre instant, il est fugitif. Le fluxus du temps, hein, il est fugitif, notre instant. Et ça passe très vite. Dès que vous réfléchissez sur l'instant, c'est déjà plus ça. Vous ne pouvez pas le posséder, l'instant présent. Il est comme un reflet d'éternité dans le temps. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas le posséder. Et c'est par l'instant actuel, l'instant présent, qui rejoint le jugement d'existence. Le jugement d'existence, il est mesuré par l'instant présent. Et c'est par cet instant présent que vous rejoignez l'éternité. Vous ne rejoignez pas l'éternité par le passé ni par le futur. C'est pour ça que seul le jugement d'existence, c'est du reste intéressant parce que c'est encore un aspect sous lequel vous voyez la nécessité du jugement d'existence pour fonder toute la métaphysique. Parce que ce n'est que par le jugement d'existence que vous saisissez l'instant présent. Et c'est aussi caractéristique de la saisie philosophique du temps. L'astronome, le physicien ont une certaine conception du temps en dehors de l'instant présent. C'est uniquement l'ordre. Et ce n'est pas l'instant présent. La conception philosophique du temps, c'est quelque chose de très important. C'est un sujet qui, pour certains, peuvent être une manière pour eux d'entrer dans ce que c'est que la philosophie. C'est d'essayer de réfléchir sur l'instant présent. C'est ce qu'Aristote a fait, comparativement à Platon, parce qu'on ne retrouve pas ça chez Platon, dans sa physique. Il a essayé de comprendre ce qu'est l'instant présent. Par où vous rejoignez la réalité dans le jugement d'existence. Le jugement d'existence seul nous fait toucher l'instant présent. Parce que dès que vous êtes dans une perspective d'intériorité, c'est-à-dire d'expérience intérieure, sans le jugement d'existence immédiate, vous n'avez plus le point de vue de l'instant, vous avez la durée. La durée ne vous donne pas l'instant présent. Et c'est pour ça que c'est là où il y a quelque chose de très important à saisir, c'est que durée et instant présent sont nos deux expériences irréductibles l'une par rapport à l'autre et qui nous aident à saisir ce que c'est que l'éternité. L'instant présent vous montre que l'éternité, c'est un instant qui subsiste, c'est-à-dire qui dure. Donc vous faites appel à l'expérience de l'instant présent et de la durée. Et vous dites que les deux sont unis. Alors que pour nous, nous avons toujours un hiatus entre l'instant présent, celui que nous saisissons maintenant, le nunc, que vous saisissez maintenant. Vous saisissez maintenant votre instant présent si vous êtes éveillé. Moment du réveil, si vous voulez. Vous réveillez bien l'instant présent. Tiens, 6 heures. Si vous vous réveillez à 6 heures. 6 heures, hein, c'est l'instant présent. Et puis, ça passe très vite. Parce que immédiatement après, ce n'est plus ça. Et du reste, le jugement d'existence, c'est comme ça. Hein. On le saisit à l'instant présent. Après, c'est le passé, après, c'est le futur. Et c'est la durée qui montre quelque chose de différent. Mais vous ne saisissez pas l'instant présent par la durée. Donc, vous ne saisissez pas le jugement d'existence par l'expérience interne. Ça vous fait comprendre la différence entre l'aristotélisme et le néoplatonisme. C'est curieux, mais c'est là où on saisit les deux. Le néoplatonisme est toujours du côté de l'expérience interne, de l'amour ou de l'expérience de la vérité. Les deux grandes choses qu'a pris saint Augustin. Et on veut rejoindre l'éternité par ce point de vue de l'amour. C'est vrai, l'expérience que j'ai de l'amour, je voudrais que mon amour, quand j'aime actuellement, soit éternel. Quand vous faites oraison, vous voudriez que ce soit l'éternité. Et malheureusement, ça s'arrête. Vous voudriez que ce soit l'éternité. Quand on aime, on est dans l'éternité. Quand on aime en acte, l'amour nous fait toucher quelque chose d'éternel, mais ne nous donne pas immédiatement l'expérience du jugement d'existence. C'est très curieux, ça. Alors, votre expérience d'éternité, vous voyez bien, elle est un peu imaginative. Vous aspirez à l'éternité. Et vous ne dites pas « je suis dans l'éternité ». Si vous étiez dans l'éternité, ça n'aurait pas de fin. Du fait même que ça a une fin, ça prouve que vous n'êtes pas dans l'éternité. Vous y aspirez. Vous êtes intentionnellement dans l'éternité. Or, l'éternité est substantielle. Donc, quand vous êtes intentionnellement dans l'éternité, vous n'êtes pas dans l'éternité. Vous y aspirez. Vous y tentez. Mais vous n'avez pas l'expérience de l'éternité sur la terre. Alors vous pouvez vous poser la question, est-ce que la foi me donne l'expérience de l'éternité? Ça, c'est une autre question. Je parle ici en philosophe. Hein. En philosophe, votre amour, si intense qu'il soit, votre amour humain, qui vous donne la nostalgie de l'éternité, et c'est vrai, ça vous donne la nostalgie de l'éternité. Tout être qui aime a la nostalgie de l'éternité. C'est même un des critères du véritable amour. Quand vous vous dites vite que ça cesse, ça prouve que cet amour n'est pas très intense. Alors que quand l'amour est très intense, vous dites pourvu que ça dure, hein, et que ça dure le plus longtemps possible. Donc que ce soit éternel. Il y a donc une nostalgie d'éternité dans l'amour. Vous savez bien, c'est une des voies d'accès vis-à-vis de Dieu. C'est une nostalgie. Donc, c'est quelque chose d'imaginatif, mais d'une imagination très spirituelle, hein, d'une imagination portée par une intentionnalité très spirituelle. Mais c'est quand même pas l'expérience de l'éternité. Philosophiquement, vous n'avez pas l'expérience de l'éternité. Si vous aviez l'expérience de l'éternité, vous avez l'expérience de Dieu. L'éternel, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est éternel. C'est une manière d'exister propre à Dieu. Dieu seul est éternel. Nous participerons l'éternité dans la vision béatifique. Mais tant que nous ne sommes pas dans la vision béatifique, nous ne partissons pas l'éternité. Nous sommes des êtres dans le temps et des êtres spirituels dans une certaine durée. Mais je ne touche pas l'éternité. Je vis l'éternité par mode de nostalgie. Quand j'aime spirituellement et quand je suis dans l'ordre de l'intelligence au point de vue d'une certaine contemplation. très curieux. C'est exactement comme je ne touche pas Dieu. Alors j'atteins, j'affirme Dieu existe, j'affirme l'éternité existe, mais je n'ai pas l'expérience de l'éternité. Mais toujours le jugement d'existence va au-delà de mon expérience. Hein. Heureusement, ça va au-delà. Oui, c'est, pour ceux qui connaissent un peu la métaphysique de l'acte, c'est l'entelekeia, l'energeia. Peut-être que c'est là où on saisit le mieux. L'entelekeia d'Aristote, vous le verrez pour ceux qui ne comprennent pas. Alors ils auront la nostalgie de l'entelekeia. L'entelekeia, c'est ce que vous vivez dans votre vie intellectuelle et dans votre amour. Et l'energeia, c'est ce que vous affirmez. Vous affirmez l'existence de l'éternel. Dieu est éternel, je l'affirme. Et je ne peux pas affirmer l'existence de Dieu sans affirmer que Dieu est éternel. Mais je n'ai pas l'expérience de l'éternité de Dieu. Je l'affirme. Alors vous allez me dire, alors qu'est-ce que c'est? Mais c'est justement que mon intelligence dépasse l'expérience. Oui, c'est là où on voit que la métaphysique est au-delà du psychologique. Parce que l'entelekeia, c'est dans l'immanence de mon opération d'amour. C'est dans l'expérience que j'ai au point de vue intellectuel. Tandis que mon intelligence est capable d'affirmer quelque chose qui est au-delà de ce que j'assimile, que j'expérimente. C'est un lieu, c'est pour ça que j'insiste un tout petit peu, parce que l'éternité et le temps et la durée, c'est pour nous un domaine extrêmement intéressant pour saisir la différence entre le point de vue psychologique et le point de vue métaphysique. Notre psychologie est toujours dans la durée. Et notre psychologie nous fait sentir très fort la différence entre le temps et la durée. Ça, psychologiquement, c'est très très net. C'est peut-être même là où le point de vue psychologique est le plus, j'allais dire, le plus intéressant. C'est de saisir cette espèce de hiatus dans lequel on se trouve. Puis alors, le point de vue métaphysique ajoute « Dieu est éternel ». Ça, psychologiquement, vous ne pouvez pas le dire. Puisque psychologiquement, vous ne pouvez affirmer que ce que vous expérimentez. La psychologie ne permet pas l'induction et la démonstration a posteriori de l'existence de Dieu. La psychologie ne permet pas le dévoilement de Dieu. La psychologie me laisse dans mes nostalgies. Je dis, ces nostalgies sont peut-être vraies, je l'espère, mais je n'en sais rien psychologiquement. Je vous avais déjà dit cette chose qui m'a beaucoup intéressé, c'était un professeur de philosophie du Canada qui voulait, du vivant de Jung, voir ce que Jung lui aurait dit exactement par rapport à l'existence de Dieu. Il était passé à Fribourg à ce moment-là, il était venu me voir et m'avait dit qu'il allait voir Jung pour lui poser la question. Alors j'ai dit, ça m'intéresse beaucoup, vous reviendrez me voir au retour et vous me direz ce que Jung vous a dit. Parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il vous a dit. Il devait poser la question à Jung, pour vous, est-ce que Dieu existe? C'est très bien toute la psychologie de Jung à la différence de Freud, n'est-ce pas? Jung a tout un aspect religieux et tous des symbolismes religieux. Et ces symbolismes religieux, est-ce que ça aboutit à l'existence de Dieu ou pas? Je savais à peu près d'avance ce que Jung dirait, mais j'ai laissé mon cher professeur canadien y aller. Alors il est revenu en me disant, je n'ai rien obtenu de Jung. C'est pas étonnant. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Je reste dans le symbolisme. Dieu existe-t-il? Dieu n'existe pas? Je n'en sais rien. Il y a des symboles religieux. Il y a une expérience religieuse. Il y a des nostalgies. Il y a un appel. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je n'en sais rien. C'est très beau d'une certaine manière, parce que c'était le psychologue qui n'affirmait rien de plus que sa psychologie pouvait dire. Mais ne cherchez pas à savoir. Parce qu'il ramenait toute sa connaissance à sa psychologie. Alors c'est un lieu qui est très important pour ça, c'est pour ça que je le souligne. C'est un des lieux qui est particulièrement important. Vous voyez, quelqu'un comme Guiton a fait sa thèse sur le temps et l'éternité. C'est un très beau livre du reste, qu'il faut lire. Le temps et l'éternité, il le fait avec tout le point de vue du néoplatonisme et d'Aristote. Mais c'est très intéressant de voir que c'est là où il y a comme une espèce de point de contact entre le point de vue psychologique et le point de vue métaphysique. Et on saisit le mieux comment la métaphysique va affirmer quelque chose que psychologiquement je ne peux pas expérimenter. J'ai la nostalgie de l'éternité. Je crois que tout être un peu spirituel a la nostalgie de l'éternité. Tout artiste a la nostalgie de l'éternité. Tout être amoureux a la nostalgie de l'éternité. Tout être qui recherche la vérité a la nostalgie de l'éternité. Parce qu'on sent bien que le beau, l'amour, le vrai sont des transcendentaux psychologiques. On va peut-être inventer cette dimension du transcendantal psychologique, qui n'est pas le transcendantal métaphysique, hein, mais il y a un transcendantal psychologique, c'est-à-dire il y a une métapsychologie, qui n'est pas la métaphysique, mais il y a une métapsychologique, c'est que nous sentons qu'à l'intérieur du psychologisme, il y a comme quelque chose qui est un appel. Je crois que c'est la dimension du beau transcendantal de Maritain. Alors Maritain dit transcendantal métaphysique, en réalité c'est un transcendantal psychologique. C'est très beau du reste à saisir, et c'est pas étonnant, c'est très beau à saisir, puisque c'est le beau transcendantal. Alors, c'est très beau à saisir, c'est quelque chose qui vous appelle, c'est quelque chose qui vous aspire. Comme le beau, l'amour métapsychologique. On sent bien qu'il y a une nostalgie d'éternité. L'éternité, je n'en ai pas l'expérience. Mais je peux avoir un jugement de sagesse dans une contemplation métaphysique. Puisque ces jugements de sagesse se font à l'intérieur d'une contemplation. C'est pas du tout de la logique. C'est là où on voit très bien la limite de la logique. La logique s'arrête à la contemplation. La logique va jusqu'au seuil de la contemplation. Mais si vous ne brûlez pas la logique, vous n'entrerez jamais dans la contemplation. Et si le grain de blé tombe en terre et meurt, pour certains, mourir, c'est perdre sa logique. Et c'est vrai, parce que certains êtres sont tellement dans la logique qu'ils n'arrivent jamais à faire le bon contemplatif. Alors quand ils ne font pas le bon contemplatif, ils restent dans la logique. Occam. Et à la suite d'Occam, tous les successeurs d'Occam, tous les Occamiens, qui sont franciscains de nom, logiquement dénominativés, mais qui ne sont pas franciscains, parce que le propre du franciscain, hein, si je prends le Séraphin, il n'est pas limité à la logique, il est justement celui qui dépasse. C'est très important de comprendre que ce que nous essayons de faire, c'est au-delà de la logique. Vous ne pouvez pas, au point de vue logique, entrer dans la contemplation. La logique est toujours liée au raisonnement. Vous voyez, alors, c'est fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure. La logique ne saisit pas le jugement d'existence. C'est l'au-delà de la logique. La logique peut donner le conditionnement du jugement d'existence, mais pas le jugement d'existence. Le conditionnement, oui, c'est sûr, mais pas le jugement d'existence. Parce que dès que je suis dans le jugement d'existence, je suis dans l'au-delà de la logique. L'être n'est pas logique. Cette petite phrase d'Aristote qui est constante. L'être n'est pas dans un genre. Or, la logique est dans un genre. Et la logique, c'est le genre. Dans ce qui est fondamental, c'est notre connaissance univoque. C'est ça la logique. Donc ça, c'est dans un genre. La critique va plus loin. Mais elle s'arrête à l'intelligible. Je ne peux pas critiquer le jugement d'existence. C'est ce qui fait comprendre que la métaphysique est avant la critique. Parce que le jugement d'existence est au-delà de la critique. Je ne peux jamais rejoindre la métaphysique par la critique. Comme je ne peux jamais rejoindre la métaphysique par la logique. Vous voyez, il y a trois numéros. Et c'est l'éternité qui nous fait parfaitement comprendre tout ça. Si nous réfléchissons, parce que ça, on est à la lisière, là. C'est pour ça que je reprends ces choses-là, dans cette lumière, parce que c'est particulièrement éloquent. C'est vrai, c'est un des lieux où nous avons... Je ne sais pas si on n'est pas un peu séduit par l'éternité. Je crois qu'il nous manque quelque chose, quand même. Hein. On doit tous être séduits par l'éternité. On doit tous avoir eu un moment où on se dit, mais on perd la tête complètement. L'éternité, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est fait pour l'éternité. Voyez ça, un jour, tout ce qui est dans le temps, tout ce qui est dans la durée, disparaîtra, on sera dans l'éternité. Vous devrez abandonner votre logique. Et la métaphysique, dans son point de vue de sagesse, demeurera. Parce que la contemplation réclame l'éternité. La contemplation est éternelle. En Dieu, pas en moi, mais en Dieu, elle est éternelle. Mais comme la contemplation, je peux la toucher, je peux en avoir cette espèce d'appel, alors je comprends. Alors voyez bien ces trois dimensions qui sont tellement importantes à saisir. L'aspect de l'être de raison. L'aspect de la forme intentionnelle. L'aspect de ce qui est. Le jugement d'existence. Ce qui est. La critique. La logique, la philosophie première. Ces trois niveaux qu'il faut toujours, toujours bien saisir. Si je pars de la logique, c'est la tentation moderne. C'est très curieux. La logique, ça passe à travers tout. Et les logiciens prétendent qu'ils sont au-delà de tous les systèmes philosophiques. Donc c'est l'œcuménisme philosophique. Parce que quand vous êtes au niveau de la philosophie première, vous êtes bien obligé de dire, écoutez, ah non, moi je ne peux pas suivre un idéaliste. Non, je suis obligé. Je romps. C'est très ennuyeux. Tandis qu'en venant au niveau logique, la logique mathématique, la logistique, c'est l'œcuménisme. Vous n'êtes pas dans une perspective de droite ou de gauche, vous êtes au-dessus. Alors cette chose très mystérieuse que dit saint Thomas, c'est très intéressant, du reste, il dit ça en commentant Aristote dans sa métaphysique. Il dit que la logique est équiparence à la philosophie première. Elle a la même extension. Oui, la même extension. Mais pas la même intensité. elle a la même extension. Alors, vous voyez, phénomène de la qualité et de la quantité. Extension, compréhension. L'extension, c'est quantitatif. Compréhension, c'est qualitatif. Si vous êtes du côté de l'extension, vous direz, la logique dit tout. Non, la logique ne dit pas tout. La logique dit quelque chose d'intéressant. Elle dit l'être de raison. L'universel. Et elle reste dans l'universel. Alors, elle me donne cette modalité particulière de ce qui est connu. L'universel, c'est... Ce qui est connu a cette modalité d'exister. C'est une existence de raison. Il n'existe que dans l'intelligence. Il n'existe pas en dehors. Donc, si je pars de la logique, j'aboutis à quoi ? J'aboutis à la logique. Je ne sors pas de l'universel. Je vois que la logique doit être dépassée par la critique. La critique va plus loin que la logique, parce que la logique raisonne l'universel, et l'universel implique l'être de raison, et l'universel fondamental, c'est le genre. Donc, la logique, quand elle se creuse le plus possible, aboutit à un genre fondamental, qui, justement, d'une certaine manière, enveloppe tout. Le propre du genre, c'est d'envelopper maternellement. C'est très curieux. Ça enveloppe tout maternellement. Ça, c'est le propre du genre. La critique saisit la forme intentionnelle. La forme intentionnelle peut être univoque et analogique. Donc la critique peut saisir l'aspect analogique. La logique, pas. La logique ne dit rien d'analogique. Une pensée logique reste univoque, toujours. Et elle reste dans le genre. Oh, cette phrase merveilleuse d'Aristote, l'être, ce qui est, n'est pas dans un genre. Allez le dire, hein, c'est pas si. Une fois que ça a été dit, c'est facile à répéter. L'être n'est pas dans un genre. Ce qui est n'est pas dans un genre. La connaissance de l'être est tout de suite analogique. Alors, la forme intentionnelle peut être univoque et analogique. Je peux avoir un concept d'être. J'ai un concept d'être. Je peux. Vous l'avez tous, un peu confus, première année, un peu moins confus, deuxième année, troisième année, précis. Mais attention, parce que s'il est trop précis, vous retombez dans l'univoque. C'est toujours la tentation, ça. Il faut garder toujours un certain brouillard analogique. Si vous voulez une trop grande précision, c'est la logique qui l'emporte et votre concept revient à l'univoque. Cette espèce de désir de précision poussé jusqu'au bout, ça c'est la logique. La logique veut la précision. Alors la précision logique, au bout d'un certain temps, fait culbuter l'analogie dans l'univoque. C'est toujours très périlleux du fait ça. Il faut aller le plus loin possible dans l'ordre de la logique et dans l'ordre de la précision, c'est bien évident. Nous en avons besoin. La connaissance scientifique veut la précision. Mais la connaissance scientifique, ne l'oublions pas, elle se sert de la logique. Le contenu de la connaissance scientifique est au-delà de la logique. La science n'est pas de la logique, c'est la science. Elle se sert de la logique. Il ne faut pas confondre les deux, il y a un contenu. Il y a un contenu scientifique qui n'est pas la logique. Et alors c'est ça la critique. La critique fait comprendre que la science n'est pas la logique. La science se sert de la logique, mais elle n'est pas la logique, elle est autre chose. Alors on comprend que ce concept d'être est au niveau analogique. Et le concept d'être, ce n'est pas l'être. Si donc je pars de l'être de raison, j'aboutis au genre. Si je pars de la critique, la forme intentionnelle, je reste dans la forme intentionnelle et j'aboutis au concept d'être. Mais je n'atteins pas ce qui est. Je ne peux pas rejoindre la métaphysique par la critique. Je ne peux pas rejoindre la métaphysique par la logique. C'est tellement plus commode. Je partirai de la logique et au bout d'un certain nombre de raisonnements, je dirais, j'aboutis à la critique, j'aboutis à l'être réel. Impossible. Je ne peux saisir la philosophie première que par le jugement d'existence, qui est l'au-delà de la critique, qui est l'au-delà de la logique. Donc déjà le jugement d'existence est au-delà de la logique. Je ne peux pas ramener le jugement d'existence à la critique et à la logique. Il y a quelque chose d'unique. Alors, a fortiori, quand je suis en face du jugement d'existence en disant « Dieu existe ». Dieu existe au-delà de la critique. Je ne peux pas par la critique saisir Dieu. Dieu est incritiquable, heureusement pour Dieu. Dieu est incritiquable. Tu restes très très beau de voir ça. Ce qui montre que toutes les négations à l'égard de Dieu, Dieu doit sourire quand il voit l'homme croire qu'il peut le critiquer. C'est vrai, c'est abominable au point de vue profond, parce que c'est si je saisis Dieu, Dieu ne peut pas être critiqué. Quand je saisis le jugement d'existence, je vois que l'être est incritiquable. L'être, il est. C'est tout. Vous critiquez votre manière d'atteindre l'être. Ah oui, oui, ça oui. Votre manière, votre conditionnement, ça vous pouvez le critiquer. Vous critiquez votre manière d'atteindre ce qui est. Mais ce qui est au-delà, c'est au-delà. L'être est incritiquable. Dieu est incritiquable. Là, vous pouvez le toucher. C'est pour ça que ce n'est qu'un toucher. Et ce n'est qu'un regard contemplatif. Dans ce toucher. Mais Dieu est incritiquable. L'être est incritiquable. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qui est critiquable? C'est la forme intentionnelle. C'est toute votre connaissance conceptuelle. Toute votre connaissance conceptuelle, c'est votre manière de saisir, hein, c'est votre manière de connaître. Alors là, oui, très bien, vous pouvez critiquer ça. Et il faut le critiquer pour avoir les limites, pour voir justement jusqu'où ça va. Comme l'être de raison et la logique est critiquable. C'est sûr. C'est important de connaître cet instrument, mais ce n'est qu'un instrument. Organon. Vous voyez, celui qui a inventé la logique l'a appelé organon, un instrument. Ce n'est pas la pensée dans ce qu'elle a de scientifique et de philosophique. Mais c'est le petit organon, le petit instrument chirurgical de la science et de la philosophie. C'est très important de comprendre cela et de saisir ce qu'elle est. Il faut la saisir à sa place. Vous voyez, il y a toujours ces trois niveaux. Et comprenez que si vous abordez le problème par le niveau fondamental, immédiat, vous remontez vers la critique, vous remontez vers la logique. Mais si vous descendez de la logique comme si elle était première, vous resterez dans la logique. Si vous repartez de la critique comme si elle était première, ça a été, au fond, quand aurez voulu, par la critique, rejoindre la métaphysique. Et vous ne pouvez pas, par la critique, rejoindre la métaphysique. Impossible. Vous ne pouvez pas. Alors, je comprends très bien que pour quelqu'un qui est plongé dans la logique et plongé dans la critique, c'est un peu terrible. Il y a un saut périlleux. Ça, c'est la fragilité de la connaissance humaine, de la connaissance métaphysique. La connaissance métaphysique doit accepter de dire oui, c'est vrai. Si elle était dans la forteresse de la critique, elle serait très fortifiée. Elle doit accepter cette fragilité de celui qui est au-delà de la critique. Alors c'est pour ça qu'on dira, c'est une connaissance naïve. Il y a toujours quelque chose un peu naïf dans la métaphysique, tout le temps. C'est en ça qu'il rejoint le poète. Quand Platon dit, le poète, le philosophe et le mystique ont quelque chose de commun. Ils ont quelque chose de commun parce qu'ils saisissent quelque chose qui est au-delà de la critique. Alors Platon ne dit pas ça, mais je préciserai par rapport à Platon, c'est qu'il saisit quelque chose qui est au-delà de la critique. Alors quelque chose qui est à l'état natif. La métaphysique a quelque chose d'état natif. C'est toujours notre intelligence dans son premier jaillissement. Primo cadit in intellectus ens. Primo cadit in intellectus, hein, je vous ai dit, cette petite affirmation où saint Thomas dit 175 fois. Secondo cadit. Primo cadit in intellectus. La première chose qui tombe dans l'intelligence, c'est ce qui est. Et ce qui est tombe dans l'intelligence. Ça montre très bien que l'intelligence a quelque chose d'irréductible par rapport à la critique, par rapport à la logique. Et ce quelque chose d'irréductible, c'est l'intelligence qui rejoint l'être. Et qui rejoint l'être à tous les niveaux. L'être tel qu'il est, l'être dans son sommet. Quand l'intelligence rejoint l'éternité ou l'éternel, puisque c'est l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance là, je peux dire l'abstrait et le concret, quand l'intelligence rejoint l'éternel,